Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission du vinyle, votre nouvelle émission Passaggio, une émission dédiée au chant lyrique et au monde de l'opéra. C'est avec beaucoup de respect et d'admiration que j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Kevin Amiel, chanteur lyrique, tessiture ténor. Bonjour Kevin Amiel.
Bonjour.
Passé par le conservatoire de Toulouse, votre ville natale, après une performance à l'Opéra de Marseille de la Sainte de Bleecker Street, direction l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris que vous intégrez en 2011. Nommé aux victoires de la musique classique en 2020, vous remportez toute une série de concours de chant et obtenez par exemple le prix de l'AROP en 2013. Vous vous familiarisez avec les rôles de second plan dans des grandes productions et sur des grandes scènes, comme lorsque vous interprétez le rôle de Gastone dans La Traviata de Verdi. Vous vous affirmez progressivement dans des rôles plus importants, comme en 2018 lorsque vous interprétez Faust, de Gounod lors des Nuits lyriques en Marmandais, jusqu'à interpréter Rodolphe dans l'illustre œuvre de Puccini, La Bohème. Quel déclic pour le chant lyrique? Est-ce que finalement c'est l'histoire d'une rencontre avec un professeur, d'un air d'opéra qui vous bouleverse? À quel moment se dit-on je vais faire ça et surtout je peux faire ça?
Moi en fait c'est parti d'un pari entre amis, voilà. C'était au collège complètement, un pari que j'ai perdu. Et en fait chaque fin d'année on avait un spectacle de fin d'année où il fallait théâtre, chant, danse. Et du coup moi j'ai chanté pendant ce spectacle-là. Alors j'ai chanté, alors pas du tout un air d'opéra, parce que je ne suis pas du tout issu d'une famille de musiciens classiques ou quoi que ce soit. Pour l'anecdote, en fait, c'est une époque où un chanteur français que tout le monde connaît, qui s'appelle Florent Pagny, sortait un album qui s'appelait Bariton. Et il a sorti ça avec Yvan Cassar, qui est un très, très grand chef d'orchestre, qui a travaillé avec les plus grands chanteurs français.
Et avec vous d'ailleurs maintenant.
Et avec moi, voilà, maintenant c'est un très bon copain, donc j'ai énormément de chance. Et en fait, voilà, c'est parti de là, et c'est mon professeur de maths qui a réagi tout de suite. Et elle avait une connaissance qui est venue m'écouter et qui m'a dit, alors voilà, déjà tu n'es pas baryton, tu es ténor, et tu es une voix très recherchée, donc si tu t'engages dans ce cursus-là, c'est beaucoup de sacrifices et tu vas pas avoir la même vie que tes copains de 17 ans. Et la deuxième chose, après, ce qui m'a fait vraiment tomber complètement amoureux, c'est la voix de Pavarotti. Voilà, puisque la première personne que j'ai rencontrée qui m'a ensuite enseigné pendant 3-4 années la technique pure, il m'a fait écouter en me disant mais voilà, tu écoutes ce CD, c'est ça un ténor. Ouais. Je suis rentré chez moi, j'ai écouté, première note, je suis tombé amoureux directement de la voix.
On se dit comment est-ce que c'est possible de produire un son comme ça?
Moi, je suis quelqu'un qui me pose pas tant de questions que ça. Ce genre de questions, je me la suis pas vraiment posée. Moi, je suis quelqu'un qui fonce en fait.
D'accord.
C'est-à-dire, on m'a dit voilà, tu es telle voix, ça c'est un ténor, on peut travailler comme ça. Je dis ok, on y va.
Et donc, très très jeune en fait, ça a été but.
Exactement.
Et donc, c'était ça ou rien.
Moi, j'avais deux choses dans ma vie. J'avais les arts martiaux, où j'ai commencé à enseigner avant d'arriver sur Paris. Et la deuxième chose, ben, je voulais faire soit du théâtre ou du cinéma. Donc déjà, j'étais un petit peu dans le côté un peu artistique. Et puis là, je me suis dit, c'est cool, c'est du théâtre, c'est du chant, c'est de la musique. C'est un peu tout mélangé, en fait. Et puis maintenant, comme il y a beaucoup d'œuvres qui sont filmées et retranscrites à la télé, ben, au final, on fait un peu de cinéma.
Un métier d'acteur, finalement.
Voilà,
un métier exigeant et d'ailleurs parfois pas toujours très bien rémunéré. On entend beaucoup parler d'ailleurs des coupes budgétaires dans le milieu de la culture. Vous-même, sur vos réseaux sociaux, dans un milieu où d'ailleurs peu osent s'exprimer, où l'on cultive aussi cette image de l'art pour l'art à n'importe quel prix, vous osez parler et dénoncer des rôles ou des performances que l'on vous propose avec des rythmes de travail industriel pour la voix et faiblement rémunéré.
Exactement. C'est très bien résumé. Mais oui, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent. Voilà. Et alors, il y a beaucoup de gens qui sont très bien installés dans le métier qui disent que l'opéra, tant qu'il y a du public, l'opéra ne va pas mourir, évidemment. Mais disons qu'avec le rythme que l'on a dans ce métier-là, c'est un métier d'athlète, quelque part, on ne peut pas se dire qu'on ne va pas gagner suffisamment d'argent pour en vivre et de faire un métier à côté. On ne peut pas faire de métier à côté, c'est impossible. On ne peut pas être caissier et le soir aller chanter à l'opéra avec une pleine voix, ce n'est pas possible. Déjà que c'est difficile, par exemple, on arrive sur place la veille, Des fois, ils n'ont pas les sous pour nous payer la veille, donc on arrive sur place le jour même, on répète. Le lendemain, on répète aussi, et on va nous dire, ben, le surlendemain, vous avez un concert, mais l'après-midi, on va quand même faire une générale. Voilà. À une époque, ça ne se faisait pas comme ça. À une époque, on avait 2 semaines de répétition ou 1 semaine de répétition, et le jour du spectacle, on ne chantait pas. C'est normal. Le public a payé pour entendre des voix, ils veulent entendre des voix. Ils ne veulent pas entendre quelqu'un qui rit en faisant comme ça, ne plus avoir de voix, par exemple. Donc, ça devient de plus en plus difficile et ça devient un métier un peu éclair, avec des carrières éclair, évidemment, puisque comment fait-on pour perdurer dans le métier si la voix est fatiguée au bout de 5 ans parce qu'on a des rythmes de dingue, finalement, pour très peu, très peu d'argent qu'on avait à une époque et qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Et alors, est-ce que vous pensez que c'est le regard sur la culture, sur le chant lyrique qui a changé ? Est-ce que vous pensez, pour reprendre un terme un peu du Covid, que chanteur lyrique, ce n'est pas un métier essentiel
pour Je pense que bon, c'est toujours pareil. Hein, ça dépend après de qui on a à la tête du pays, évidemment, et de quel parti. On a les partis de gauche sont quand même plus enclins à aimer la culture à plus ou moins sa juste valeur. Dans l'autre sens, oui, on a tendance à penser qu'on est des jongleurs ou des bouffons du roi et que l'art c'est fait vraiment pour amuser la galerie quelque part, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Moi, pendant le Covid, j'étais très en colère de voir effectivement qu'on disait que le métier d'artiste n'était pas un métier essentiel, parce que à ce compte-là, là on est en train de faire de l'art avec de la technique, avec des interviews, avec des questions que vous avez travaillées. Ça s'appelle de l'art. Les gens vont écouter, donc c'est de la radio. Les gens vont écouter, c'est de l'art. La télé, c'est de l'art. Les livres, c'est de l'art. Les peintures, les dessins, tout ça, c'est de l'art. Mettez-vous dans votre salon, asseyez-vous et enlevez tout ce que vous avez autour de vous. Vous allez voir, vous allez vous emmerder, parce que tout ce que vous avez autour de vous, c'est de l'art. Même votre maison, c'est de l'art, parce que c'est les artisans qui la font. Donc au final, c'est beaucoup plus essentiel que n'importe quelle autre chose, en fait, finalement. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, à quel point le monde est quand même régi par l'art, quelque part.
Régi par l'art, mais gouverné par l'argent, finalement.
Oh, ça va, oui, ça va. Je ne dirais pas que ça va avec, mais presque, quand même. Ouais.
Et est-ce que, justement, ça m'amène vers la question, qu'est-ce que vous diriez à un jeune chanteur qui a envie de se lancer là-dedans, que cette tendance des coupes budgétaires va s'empirer, que ça ne sert à rien, finalement ? Que ce métier est voué à subériser, entre guillemets.
C'est très marrant qu'on en parle comme ça, parce que hier, j'étais justement avec un ami qui a quelques années de moins que moi. Et juste après le Covid, j'ai rencontré cette personne-là qui me suivait aussi et qui aimait beaucoup ma voix, donc je l'ai fait travailler. Et j'avais vraiment beaucoup de choses à lui dire, du métier, de la voix, comment il pouvait y arriver, comment il fallait faire. Mais hier, je l'ai vu et il m'a dit, bon, finalement, parce qu'il travaille à la garde républicaine, c'est dans les chœurs, très belle voix de ténor aussi. Il m'a dit, ben, finalement, je vais quand même repasser le concours des chœurs de la garde, parce qu'en fait, je suis quand même dans une cage dorée et vu comment tu me parles en ce moment, ça me fait un peu peur. Et en fait, je n'ai même pas su quoi lui répondre, finalement, parce que j'avais envie de lui dire, mais non, avec la voix que toi, il faut vraiment que tu fonces, il faut vraiment que tu y ailles, il faut que tu aies du mental, tout ça. Mais en fait, c'est tellement galère que j'ai même plus l'envie de lui dire non, t'as tort. Non, en fait, j'étais presque à lui dire tu as raison finalement. Protège-toi parce qu'on ne sait pas où on va finalement.
Et toujours assurer ses arrières. C'est ce qui circule aussi chez les professeurs, même dans les conservatoires municipaux ou dans les conservatoires régionaux. Toujours assurer ses arrières. Est-ce que vous ne pensez pas que justement on va retourner à une forme d'art bourgeois, là où Pavarotti avait réussi à populariser le chant lyrique? Est-ce qu'on ne va pas retourner finalement à un art pratiqué par des gens qui ont les moyens de s'instruire et qui ont les moyens de ne faire que ça finalement?
C'est pas parce qu'on vient d'une famille de musiciens et qu'on a les moyens qu'on a forcément les talents. Alors c'est très dur ce que je viens de dire parce que c'est assez frontal ce que je dis, mais c'est vrai. À l'inverse, c'est pareil, hein. C'est pas parce qu'on est issu d'une famille qui n'est pas musicienne qu'on a forcément le talent pour chanter. Et encore, le talent, si on n'a pas le travail derrière, ça ne sert à rien dans tous les cas. Il n'y a que du travail. C'est que du travail, que du mental. Et plus que ça, c'est des contacts aussi. Ouais. Il suffit d'avoir les bons contacts et de les faire marcher au bon moment pour que aussi ça marche quelque part. Maintenant, en fait, on est un petit peu dans le flou. Voilà, je ne sais pas à quelle fin ils veulent arriver exactement, mais pour l'instant, nous, on essaye effectivement de se battre et de se débattre aussi, finalement. Mais il est vrai quand même que on voit beaucoup de gens passer qui... voilà. Ouais. Bon. Je dis pas tout.
Sur une note plus positive, aujourd'hui, vous enchaînez les rôles dans les théâtres et les maisons d'opéra. Est-ce qu'il y a un rôle en particulier que vous rêvez d'interpréter, ou un compositeur que vous chérissez et dont vous n'avez pas encore eu la chance de jouer ses œuvres sur scène?
Alors, il y a deux opéras. Le premier, c'est La Bohème, évidemment,
bien sûr,
que je devais jouer, mais qui finalement, ça ne s'est pas fait.
D'accord.
Et enfin, ça s'est fait français, à l'Opéra Comique. Et c'était super parce qu'on est revenu en 1800 et quelques années, puisque ça a été écrit en français aussi, par Puccini d'ailleurs.
Et on s'est repris par Benjamin Bernheim aussi, un ténor qui souvent.
Par Benjamin, oui. Je crois qu'il l'a enregistré sur CD plusieurs.
C'est ça.
Plusieurs airs de son répertoire. Et le deuxième CD, il a fait un truc à l'inverse, c'est-à-dire il a pris des airs italiens qu'on chantait à une époque en français, il les a chantés en français. Ce qui est super, c'est très beau et très intelligent en plus. Et le deuxième opéra que je rêverais, c'est Werther.
De Massenet. Voilà. Excellent. Donc, excellent. D'ailleurs, ça avait été évoqué, il me semble, peut-être pour votre CD.
Pour mon CD, il est possible qu'il soit dedans.
Parce que j'avais entendu justement un projet de CD. Est-ce que ça se concrétise ? Est-ce que ça se...
Ah, c'est fixé.
C'est fixé ?
Les dates sont fixées au mois de juin. Ça devrait sortir pour printemps 2025. Donc, mars, début mai, peut-être. Mais pour l'instant, la seule chose que je ne dévoile pas, c'est le programme précis. Allait être dans les questions.
Ça allait être dans les questions. Est-ce qu'il y a du répertoire italien, français ?
Oui, c'est effectivement un répertoire franco-italien.
D'accord.
Voilà.
Okay. Mais qui respecte les langues originales ou est-ce que vous avez...
Ça, j'avoue, je ne me suis pas trop posé la question.
D'accord.
J'ai fait mon ténor. J'ai choisi les airs qui me plaisaient le plus, des airs un peu tubes, et puis d'autres où on a un petit peu moins l'habitude de m'entendre parce qu'il faut aussi de temps en temps prendre des risques quand même. Donc ça peut étonner, mais je pense pas que ça déplaira.
Et puis est-ce qu'il y a des lieux, des maisons de théâtre ? Est-ce qu'il y a des scènes où on pourra vous retrouver pour tous les auditeurs là qui nous écoutent ?
Là c'est surtout encore, mais justement pour revenir aux notes un petit peu moins positives, là c'est pareil, on est moins dans le, comment on dit ça ? On prévoit moins nos saisons, c'est-à-dire on ne sait plus trop si l'année prochaine on va avoir. Et par exemple, moi, pour vous dire, dans 2 ans, je vais ça, mais l'année prochaine, je ne sais pas encore. Parce qu'il y a énormément de maisons aussi qui n'ont pas encore fait leur saison de l'année prochaine, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils vont toucher. Ils ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir jouer. Donc pour l'année prochaine, je ne peux pas trop vous dire, si ce n'est que je vais peut-être faire un Carmen à Versailles. Voilà.
D'accord.
Mais là, Hong Kong, c'est vraiment le gros truc, quoi. C'est Roméo et Juliette à Hong Kong.
Vous exportez à l'étranger, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. On essaye en tout cas. Ouais. Moi, tout public est bon à prendre. Je choisis pas mon public. Mais que ce soit dans l'église d'à côté ou à Sciences Po, j'ai pas de choix. Et j'avais eu Roberto Lagna au téléphone il y a pas très longtemps. Il m'a dit.
Quelle chance !
Le plus important, il m'a dit tu t'en fous, le plus important c'est de chanter. C'est tout. Et il fait effectivement la tournée des grands comme des petits endroits. Voilà, mais Roberto, c'est l'exemple typique de celui qui réussit en tapant aux portes. Hein. Il a eu un très bon agent quand il avait 23 ans. À 24 ans, il chantait à la Scala, par exemple. Son agent, il a dit, lui, c'est la voix en or. Paf, il a lancé. Mais bon, c'était pas dans les années 2024.
Ouais. Il a fait le concours Pavarotti, il me semble.
Il a rencontré
Pavarotti
aussi.
Ça, c'est dingue.
Et il m'a dit, il faut juste chanter, il faut que tu chantes. Bah, je lui dis oui, mais pour chanter, il faut aller dans les endroits, pour avoir des endroits.
Ouais. Même le film, là, Ténor,
Oui,
mais ça, je sais pas si ça peut vraiment exister encore, ça, aujourd'hui.
À partir du moment où vous êtes jeune et que vous avez une voix en or, les gens, au solfège, ils s'en foutent. Après, aujourd'hui, ils sont plus à cheval sur c'est vrai. À l'époque de Pavarotti ou de Roberto, tu pouvais arriver sans lire la musique. Moi, pour apprendre la partition, j'écoute. Enfin, maintenant, je précise un peu plus, mais je me mets au clavier avec la main gauche, ma main droite, pardon, je me joue mes parties, comme ça, parce que évidemment, avec les années, après, on apprend aussi. Hein, donc, je me joue ma partie, je l'enregistre, et puis après, je réécoute. Mais moi, quelque part, je m'en fiche parce que je ne suis pas passé par là.
Oh, c'est vrai ? Vous avez fait comment ?
J'ai rencontres. Mon premier professeur connaissait un coach qui était. Là, aujourd'hui, ça s'appelle l'Académie de l'Opéra de Paris, mais à l'époque, c'était l'Atelier de l'Opéra de Paris.
C'est ça.
Qui m'a écouté, qui a fait ça avec les oreilles et qui a dit l'année prochaine tu auditionnes là-bas, et je suis rentré à 22 ans. Donc en fait j'ai commencé le chant, j'avais même pas 18 ans, j'ai fait mes premiers concours à 18 ans, je remportais des prix de concours, j'ai fait genre 2 ans de conservatoire à Toulouse et après je suis arrivé à Paris comme ça, les mains dans les poches.
Mais oui, parce que alors ça c'est.
Les mains dans les poches,
non,
et
parce
rien
que
dedans.
Quand j'ai pris Paris Interview, je me suis dit alors 2008 conservatoire Toulouse, 2011 Opéra de Marseille, je me suis dit je veux la même carrière.
Non,
parce
c'est allé
que
très
ça
très
va
vite
quand
c'est
même.
C'est allé très très vite. Moi, la scène, je l'ai commencé à 19 ans. Et j'en ai 35. Ça fait 15-16 ans que je chante. Donc quand je vois un chef d'orchestre qui a 60 ballets qui vient me voir et qui me dit ah, tu vois ceci, cela, je regarde, je fais mais je sais.
Ouais.
Il me dit mais comment ça tu sais ? Je dis ça fait 16 ans que je chante. Je suis pas passé par des chœurs, par rien. Je suis vraiment passé à l'atelier de l'Opéra de Paris. Et puis une fois que je suis sorti de là, j'ai commencé à faire des rôles. Un jour, on a voulu me proposer un second rôle, j'en ai eu marre. J'ai dit non, je veux le premier. Il m'a donné le premier.
Waouh.
C'était à Toulouse.
Ok.
Chez moi.
C'était pour...
Traviata.
Traviata. Ouais. En quelques années de passer du second rôle au premier, je me suis dit...
Ah ouais, non mais...
Belle carrière.
Et puis on n'avait pas de Français sur la scène. Voilà, on avait beaucoup d'étrangers parce qu'évidemment ça coûte moins cher.
Il y avait un syndicat des chanteurs qui montrait que la plupart des chanteurs engagés viennent tous même d'Allemagne, d'Europe de l'Est, etc. Parce que pour un même cachet net, en termes de cotisation sociale, on va donner moins.
Exactement.
Et donc c'est terrible, quoi. C'est du dumping social.
Au final, ils veulent faire de l'artistique quelque chose de saltimbanque, mais ils le traitent comme n'importe quelle entreprise finalement. Ouais. Parce que moi, mon père, qui travaille sur les chantiers, sera beaucoup plus cher que quelqu'un qui vient de l'étranger, par exemple. Alors moi, je n'ai rien contre les gens de l'extérieur. Bien au contraire, je chéris ça parce que je les côtoie tout le temps.
Bien
et
sûr.
C'est ça qui est enrichissant dans le métier. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que en Italie, il y aura Kevin Amiel et Giuseppe. Ben même si Giuseppe il est moins bon, ils vont prendre Giuseppe parce que c'est un Italien.
Bien sûr.
En Allemagne, c'est pareil. En Allemagne, si vous parlez pas un tout petit peu l'allemand et qu'on vous connaît pas trop dans le métier du lyrique, ils ne vous prendront pas. Si vraiment vous avez une super voix que vous parlez pas allemand, ils vont. Enfin, c'est pas grave. Mais si vous parlez pas allemand et que vous avez une voix qui est bien, mais qu'à côté il y en a un qui est allemand, qui chante pareil que vous, ils vont prendre l'allemand parce que ça vient de leur pays en fait, donc c'est normal quelque part.
Mais est-ce qu'il y a une entraide entre les chanteurs et ténors, ou est-ce que justement se fait un peu d'ubériser, de concurrencer? Bon, on s'aide, alors, mais pas trop quand même.
Moi
parce
je
que...
parle pour ma voix, il y a beaucoup moins de concurrence chez les ténors que dans les autres voix. Parce que chez les ténors, c'est plus recherché, c'est plus rare quand même. Une entraide entre eux quand ils travaillent ensemble sur scène ou quand ils ont des doubles castes, oui, il y a ce côté-là, échange. Mais d'un point de vue carrière, il n'y a pas d'entraide. Parce que c'est déjà très compliqué de s'aider soi-même dans ce métier-là. C'est un métier assez, assez égocentré. Hein, parce que si tu ne te concentres pas sur toi-même et que tu essaies d'aider tout le monde alors que tu n'es pas aidé, ça c'est valable dans la nature aussi, on va dire, et dans la vie normale. Mais il n'y a pas d'entraide particulière d'un point de vue carrière. Ça peut arriver, hein. Tiens, je te donne ce contact, tu le contactes de ma part, ça peut arriver, c'est pas le problème. Mais chez les ténors, on a la même bêtise en fait. Donc dès qu'il y a deux ténors qui se croisent, pour peu que tous les deux ils soient tranquilles. Avec Benjamin par exemple, on a fait un double cas sur Traviata à Bordeaux. Quand on nous voyait arriver dans les couloirs, les gens ils levaient les yeux au ciel, mais dans le bon sens, c'est-à-dire ça les faisait rire. Ils aimaient bien nous voir tous les deux, mais ils savaient que ça allait partir en vrille totale, parce que tous les deux on a la même bêtise et ça, on s'est entendu très très bien. Donc
D'ailleurs, dans le milieu, on dit qu'il y a en ce moment, sur le marché un peu de la musique, il y a un manque de ténors et un manque de mezzo, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de sopranos, beaucoup de sopranos.
Il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de sopranos.
Ouais.
Chez les ténors, il y a beaucoup de ténors, mais légers. Beaucoup de ténors légers, donc on va prendre des ténors légers, et les ténors un peu comme Benjamin, ou comme moi, ou comme Pene Pati, c'est des ténors plus rares, ouais. c'est moins fréquent. C'est pour ça que dans les concours, sur 350 candidats, il va y avoir 300 sopranos, 10 barytons... 20 mezzo
et ténor, ouais.
Et trop ténor, quoi. Après, la voix de ténor, c'est la voix. Je dis ça pour moi parce qu'après, je chante pas dans les autres.
Je pense qu'on va être d'accord, mais.
C'est la voix la plus difficile, en fait.
Mais c'est ce que je dis, et tout le monde me dit, mais non.
Une voix de baryton, alors je vais me faire insulter, peut-être, j'en sais rien, mais je l'assume. Une voix de baryton, c'est une voix naturelle. C'est la voix naturelle, c'est notre voix parlée. C'est notre voix parlée. Une voix de soprano, ce sont des voix de tête, donc c'est. Voilà,
c'est ça.
Une voix de mezzo, c'est aussi des voix de tête, mais il y a aussi des voix de poitrine. Donc c'est du naturel et du surnaturel, on va dire. Un ténor, c'est que du surnaturel. C'est-à-dire, il marche toujours sur des œufs. C'est encore un œuf, c'est gros, on peut marcher dessus. Il marche toujours sur un fil. C'est-à-dire, même si tu peux être le mec le plus en forme du monde le jour où tu vas chanter, si jamais tu déconnectes un tout petit peu, tu vas faire un petit craquage. Que peut-être les gens n'entendront pas, mais toi, tu vas l'entendre. Et tu vas stresser. Et après, tu te dis, ça va pas, il faut que je me reconcentre. C'est une voix trop concentrée. Et pour anecdote, j'étais à l'atelier de l'Opéra de Paris et il y a Nathalie Dessay qui est venue nous faire du coaching. Et en fait, on a chanté le duo de Manon. Nous irons à Paris tous les deux. Et en fait, elle parle à la soprane, elle lui dit, alors la voix, elle est comme ça. Là, tu pourrais faire ci, elle lui donne plein de trucs. Et puis elle se tourne vers moi et elle me fait, alors toi, je ne sais pas du tout.
Bah oui.
Elle me dit, je ne sais pas du tout quoi te dire. Parce que déjà, un ténor, c'est très technique, c'est très surnaturel. C'est pas du tout de la voix naturelle, c'est que du travail. Ton français est très bon, t'as les aigus, je ne sais pas quoi te dire. Et moi, j'étais là, je l'ai pris pour un compliment. En venant de Nathalie Dessay, tu le prends comme un compliment quand même. Mais ouais, et Roberto ne se refuse à enseigner aussi.
C'est
parce
vrai?
Qu'il ne veut pas toucher à la voix de quelqu'un. Il dit, je ne prends pas cette responsabilité-là et c'est trop compliqué d'aller modifier la voix de quelqu'un. Pourtant, Dieu sait s'il serait bien placé. Après, la pédagogie, ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne sais pas comment il enseigne. Et c'est très humble de sa part, en plus de s'exprimer et de le dire comme ça. Parce que c'est vrai qu'aller toucher la voix de quelqu'un, c'est tellement le reflet de l'âme que c'est...
Ouais.
On n'a pas, c'est, il a raison en disant que c'est une énorme responsabilité, voilà. Il y a certains professeurs qui le font sans pédagogie tue des voix. Et t'as d'autres professeurs qui ne savent pas aussi bien chanter que l'autre d'à côté, mais qui ont une pédagogie de fou et qui vont vous apprendre tout ce que vous devez apprendre, quoi. Par contre, je pense qu'il faut un ténor pour enseigner à beaucoup de voix.
Ouais, c'est vrai.
Parce que si vous écoutez Ludovic Tézier, lui, il a commencé en ténor. Et je crois qu'il a auditionné pour l'école de l'opéra ou je sais plus pour un professeur en ténor. Il a chanté Don José, je crois. Et la personne lui a dit, vous ferez un excellent baryton.
Ah oui.
D'un air de dire, ouais, t'as de super aigus, mais je pense que tu seras bien meilleur en baryton.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, c'est un dieu.
Ouais.
Ludovic Tézier, c'est le dieu des barytons pour moi. Il est exceptionnel, incroyable. Mais quand il chante, on l'entend bien. Ce côté très nasal, il le sait. D'ailleurs, quand il était à l'école de l'opéra il y a une trentaine d'années, si je ne me trompe pas, c'est lui qui enseignait au ténor comment on faisait les aigus. Hein. Parce qu'il sait exactement comment faire. Moi, des fois, je me chauffe en écoutant sa voix parce qu'elle est tellement naturelle et timbrée comme il faut. Tout est très doux. Il caresse toutes les consonnes comme il faut. Il fait tout comme il faut. Tout comme il faut. Il n'y a rien à changer là-dedans. C'est les grands de notre époque, hein. Roberto, c'est pareil. Roberto, il a 61 ans, je crois. Je l'ai entendu en récital à l'Opéra du Capitole. Ouais. Il n'était pas venu depuis 20 ans. Il devait chanter 1h20, 1h15. Il a chanté 2h30 parce qu'il a fait 1h de bis. Il a chanté tous les airs de son répertoire depuis qu'il a 23 ans, là. Il les a chantés comme s'il avait 23 ans, presque.
Il s'attaque encore au grand répertoire.
J'ai dit avec beaucoup d'affection, il est insupportable de facilité, quoi. Et je l'ai vu en loge, il m'expliquait, une époque, j'ai allé là, et puis j'ai pris une leçon de chant et tout. Je lui ai dit, Roberto, c'est ce soir, j'en ai pris une encore, hein, quoi. Je lui ai dit, à chaque fois que je viens te voir, ça m'énerve, t'as 30 ans de plus que moi, et tu chantes au même titre que mon âge, quoi. Enfin, tu vois, donc, il savait pas quoi dire, ça l'a fait marrer parce que voilà, il est comme ça.
Il était encore au Met, au Royal Opera House, il était
aussi.
Et puis pendant une période,
il faisait Al Capone et là, et pendant toute cette période, comme il n'avait pas d'agenda lyrique, tous les opéras du monde l'appelaient en pensant qu'il était disponible. Il s'est fait appeler par le Met, par Londres, en Espagne, en Pologne, partout. Un ténor de son envergure qui tombe malade ou quelque chose, c'est lui qu'on appelle.
Ouais.
C'est lui qui va les remplacer. Quand il y a quelques années, là, il est parti au Metropolitan Opera et il chantait la bohème, évidemment.
Ouais.
Et puis, il a tapé l'aigu, mais dans la tonalité naturelle. Alors que chez certains ténors, comme Domingo ou Pavarotti, à un certain âge, ils commençaient à baisser un petit peu la tonalité.
Oui, ils ont baissé, ouais.
Pour ne pas prendre de risques. Voilà, donc après, moi, très sérieux, comme je me pose toujours, jamais de questions plutôt, je m'en fiche. Personnellement, je ne suis pas puriste au point de dire « je m'en fiche ». Parce que des gens comme Pavarotti ou Domingo, qui ont 60 ballets, 65 ballets, qui le font, ils ont fait leur vie. Ils ont montré depuis très longtemps qu'ils avaient toutes les cartes en main, c'était les dieux de l'opéra. Domingo est encore là.
En baryton maintenant,
d'ailleurs. En baryton, je l'ai vu à Gaveau il n'y a pas longtemps. Quand il rentre sur scène, c'est un dinosaure qui rentre et tu as toute son âme qui te vient dans la tronche comme ça et toutes les mémés avec les trucs et les robes de soirée comme si on était au bal de Vienne, tu sais. C'est eux, ils peuvent se permettre ça, mais c'est vrai que si moi je faisais ça, même moi j'aurais honte déjà. Voilà. Mais lui, à 61 ans, il veut la ça, et tu le vois faire ça sur scène comme ça et tu dis allez, vas-y. Ben, je vais pas prendre sa place maintenant parce qu'en fait il a un chant ultra intelligent. C'est que moi je l'ai vu la première fois que je l'ai rencontré vraiment, parce que je l'avais déjà rencontré auparavant, je le lui ai rappelé d'ailleurs, c'est la période de son album Sicilien. On s'était arrêté derrière les arènes de Nîmes. Il était avec Yvan Cassard. Il était au bout du couloir. Alors nous, on lui a fait coucou. Et le mec, en fait, de la sécurité, nous a poussé comme ça. Il a fait non, tu les pousses pas. Il nous a fait rentrer. On a vu toutes les répètes. Donc on était mes trois meilleurs potes de lycée.
On avait les yeux comme ça
avec Yvan Cassard qui dirigeait. Et après, il nous a dit, oh, ça vous a plu? Oui. Ça. Trois jours après, on est allé voir le concert. Et la deuxième fois, c'était pour Musiques en fête. Et il chantait Vesti la Joupe, bah, justement. Et pendant les répétitions, bon, avec le chef, il n'avait pas trop de connexion pour l'instant. Il a eu du mal à arriver au bout. Et en fait, lui sait pourquoi il n'est pas arrivé au bout. Ça n'a rien à voir avec la voix, la fatigue, tout ça. Non. C'est parce que ça n'allait pas dans la direction. Donc il est monté sur le pupitre, ce qui ne se fait jamais. On fait pas ça sur un chef, devant l'orchestre en plus. Il a pris le crayon du chef, il a dit là tu avances, là tu me laisses un temps pour respirer, et là on va jusqu'au bout. Paf. Il a refait l'air, les doigts dans le nez. J'ai regardé mes collègues, j'ai fait voilà. Il avait réglé le problème du chef. D'ailleurs, une autre anecdote, Roberto a toujours été un peu comme ça, parce que même avec Claudio Abbado, une fois, il avait dit, ben là, tu vois, on fait comme ci, comme ça, et le chef, il lui a tendu la baguette. Il a pris la baguette, il est monté sur le pupitre, il a dirigé l'orchestre comme il voulait, et Abbado, il a rigolé comme ça, il a pris la baguette, il a fait, oui, tu veux qu'on le fasse à l'ancienne, quoi. D'ailleurs, pour les 1h30 de plus qu'il y a eu de concert, Yvan Cassard, il lui a dit, bon, on va peut-être arrêter les bis, là, parce que sinon, c'est anti-musical.
Ouais.
Il a regardé, il lui a dit, si je m'arrête maintenant, je suis plus Roberto Alagna aux yeux du public. Paf, et il est remonté sur scène. Il a raison. C'est bête, parce que ça peut être fatigant, parce qu'il bâtit sa réputation comme ça, et il doit la faire perdurer. Tu sais, Yvan Cassard, il a une chevelure comme ça, et une fois, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne te rases pas la tête une bonne fois pour toutes, il me regarde, il me dit, ah, si tu savais ce que j'en rêve. Il m'a dit, mais tu sais, si je me coupe les cheveux, je suis plus Yvan Cassard aux yeux des gens.
Oui.
Et je lui ai dit, c'est beau ce que tu dis. Je lui ai dit, mais en même temps, c'est très triste. Je lui ai dit, c'est pour ça que moi, je change très souvent de coiffure.
J'ai dû mettre 10 ans avant de savoir qu'il s'appelait Yvan Cassard. Avant, même quand on parlait entre musiciens, on disait, mais si, là, le mec sur France 2, là, avec les cheveux de Paul Naref, là, donc,
avec les cheveux de Paul Naref. T'es gentil, parce que Hagrid plutôt. Parce que Paul Naref, c'est bien bouclé, c'est
ouais,
beau,
c'est un peu
hirsute et tout. Mais ça veut dire, c'est son image, quoi. C'est lui, c'est ça. Il mérite bien plus que ça, parce que c'est un musicien extraordinaire, c'est un être humain incroyable. Ça ne m'étonne pas qu'il ait travaillé très longtemps avec tous ces grands artistes et avec Roberto aussi, parce que Roberto, lui, il attendait qu'une chose, c'est d'arriver à l'inclure aussi, je pense, dans le milieu lyrique. Il a essayé de le faire, mais c'est très compliqué, ça. De passer de la pop au lyrique, il y a toujours eu une espèce de petite barrière. Dieu sait s'il y a de l'admiration de part et d'autre, en plus. Hein, parce que même les chanteurs lyriques, des fois, ils aimeraient bien s'essayer à le faire. Mais techniquement, c'est presque... C'est cloisonné, donc il y en a certains, ils n'y arrivent pas.
La pop, et quand on fait du classique, je trouve, après, on peut tout chanter.
Ben, c'est pas évident pour tout le monde. Mais je connais beaucoup de chanteurs ou de chanteuses qui ne peuvent pas faire ça, pas du tout.
C'est un mystère. Parce que la pop, c'est plutôt instinctif.
Ouais, c'est naturel, c'est instinctif, ça vient de là, ça sort en fait. Mais non, il y a beaucoup de chanteurs. L'art lyrique est un art prise de tête pour la technique, c'est-à-dire c'est tellement technique, on va tellement chercher la moindre petite chose pour que ce soit bien fait, qu'au final, je pense que chez certains, ça cloisonne là, et on ne sait plus comment faire le reste. Le reste, c'est la pop, parce que tout le reste lyrique, on sait le faire du coup.
La perfection, ça existe.
Non.
Est-ce que quand on est à son prime dans sa voix, c'est la meilleure journée, on a dormi 15 heures, on a eu 5 heures d'échauffement, oui, j'allonge la durée de la journée, on a fait un peu de sport, on arrive, on est sur son meilleur, dans sa meilleure journée, on chante, il n'y a pas une faute, rien. Est-ce qu'on se dit, c'est ça la perfection? On se dit, ah là, j'aurais pu faire ça plus longtemps, là l'air est un peu, je respire peut-être un peu moins, bah, ça s'entend.
De son point de vue, on peut avoir un instant de grâce, une soirée de grâce.
Ouais.
Et avoir passé une super soirée. Mais si tu prends du point de vue général, d'un point de vue mondial, il y en aura toujours un pour te faire chier.
Ouais.
Et pour dire, moi, j'ai pas aimé. Donc, à ce compte-là, c'est pas parfait du coup.
Ouais.
Perfection, c'est en ça qu'elle n'existe pas aussi, quelque part. Et encore, si vraiment tu le penses, c'est pas très glorieux quelque part, parce que même si ça a été un, moi j'ai connu ça juste un soir, et c'était un hommage à Pavarotti justement, c'était au palais des festivals à Cannes. On a eu la salle, elle était remplie, les gens debout, bon, la voix était vraiment nickel, elle était parfaite, il n'y a pas eu une note à côté, les aigus étaient tenus. C'était la première fois que j'avais aussi bien un instant de grâce comme ça, mais ça arrive une fois, une fois par mois. On peut avoir un instant régulier comme ça, mais il y aura toujours un truc qui va venir nous titiller. Quand il n'y a rien qui nous titille, c'est très rare.
Ouais.
Parce que de notre point de vue, à nous, il n'y a jamais rien qui va. Et du point de vue en face, c'était parfait, ou c'était super, ou c'était très beau.
Ouais.
Ah non, t'as craqué là, on n'a rien entendu. Alors que nous, on a fait comme ça, ouais, mais ouais. En face, ils n'ont rien entendu.
C'est un peu dur aussi, je trouve. Parce qu'à chaque fois qu'on voit des vidéos de ténor, etc., bah, y a toujours, déjà, il y a toujours des commentaires en italien en dessous. et puis on entend toujours « Ouais, Corelli était meilleur. »
Ouais, ouais, bah tiens.
On est toujours comparé aux grands, en fait.
Ouais, Corelli, il est mort.
Di Stefano, Di Stefano, il chantait mieux telle partie. Ouais,
plus, non. Je vais me faire insulter par tous mes collègues ténors. Alors, je le dis, Di Stefano n'était pas connu à son époque pour sa bonne technique, les copains. Ouais. Par contre, il a dit un truc une fois à un chef d'orchestre que j'aime bien reprendre. « Ne me donnez pas de conseils sur le chant, je sais me tromper tout seul. » Voilà. Et ça, je l'ai sorti il n'y a pas longtemps à un chef qui m'a dit « Là, pour la voix, je dis, tu es chanteur ?»« Non, alors laisse-moi me tromper, je sais quand je me suis trompé. »
Parce que chef d'orchestre...
Pardon.
Ouais, chef d'orchestre aime
ça
bien.
Ça dépend,
ouais.
Ça dépend. Il y a des chefs d'orchestre, en général, hein, ils sont très sympas parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent aussi les chanteurs, ce qui travaille avec eux. Les chefs ont plus de, entre guillemets, de pouvoir, parce que normalement c'est plutôt le chanteur qu'on suit quand même quelque part. Un vrai chef le fera.
Oui.
Comment il s'appelle, Maurizio Benigni, qui a beaucoup travaillé avec Pavarotti. J'ai fait une séance avec lui. Et alors, à la fin, il était fou, il m'a donné plein de trucs, plein de conseils et tout ça. Mais il m'a dit, j'ai un autre dernier conseil à te donner, c'est quand, si tu travailles avec moi ou avec n'importe quel chef, si tu viens, que tu me proposes quelque chose, que je sais que tu es sûr de ce que tu fais, que tu imposes ta chose et que c'est très crédible, je vais te suivre pendant tout l'opéra. En revanche, si tu viens, que tu sais ce que tu as appris, mais que tu n'es pas totalement sûr et que tu n'as pas d'argument derrière, c'est toi qui vas me suivre. Et si Roberto il fait ça, tu as tout le monde qui attend avec les violons. Voilà.
Est-ce que c'est normal que, et je ne dis pas ça contre les danseurs de ballet, etc., mais que par exemple, les danseurs de l'Opéra de Paris finissent, ont une retraite à partir de 42 ans, et qu'un ténor, par exemple, soit affilié au régime général, et donc la reconversion est parfois souvent difficile. Il y a beaucoup de chanteurs qui finissent, par exemple, professeurs dans des conservatoires. Mmh. J'ai rien contre les professeurs dans les conservatoires, mais c'est beaucoup moins payé, c'est parfois des métiers un peu précaires, un peu... Pour les plus chanceux, on se reconvertit comme, par exemple, comme Domingo en chef d'orchestre, directeur artistique de maison d'opéra.
C'est ce qui arrive en général.
Voilà, mais est-ce que vous pensez qu'on devrait peut-être avoir des politiques sociales qui puissent corriger ça?
Moi, de toute façon, je suis pour que tout le monde soit sur le même piédestal.
Ouais.
Je le dis très honnêtement, on ne fait pas les mêmes métiers, mais ce n'est pas une raison en fait.
Ouais.
Moi, j'ai vécu 5 ans avec une danseuse, par exemple. Même pour la paye, ce n'est pas du tout la même chose.
Ouais.
La retraite assez tôt, ils font pas le même métier que nous, ils sont explosés, le corps est fini très tôt chez eux. Donc après ils peuvent se reconvertir en chorégraphe ou en directeur de théâtre, parce qu'on en a eu un ancien danseur directeur du Palais Garnier à une époque. Il y a quand même aussi des reconversions chez les danseurs, mais pour le départ à la retraite assez tôt, nous c'est très mental, eux c'est mental et
physique.
Donc c'est beaucoup plus dur pour eux.
Quand je posais cette question, c'était pas contre les danseurs. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir des politiques justement plus favorables aux interprètes, chanteurs par exemple?
Ah non, mais bien sûr.
Est-ce que vous avez un ténor comme ça que vous pouvez écouter qui soit toujours vivant?
Alors c'est sûr, à part moi, ça c'est sûr, parce que je m'écoute pas ou ça m'énerve. Benjamin, je suis très admiratif de Benjamin. Ouais. Super voix, très facile. Parce que pendant quelques années, on n'en a pas eu qui ont vraiment émergé, en tout cas francophone.
Maintenant, il fait tout, quoi. Le Met,
ah oui, mais il a un super
Zurich,
agent. Il a un super agent et ça fait beaucoup. Il a Alan Green. Et ouais. Alan Green, c'est l'un des plus gros agents du monde entier qui est basé à New York.
Parce que là...
C'est un des derniers agents qui fait une carrière. C'est-à-dire, il va te dire, alors, de tel âge à tel âge, tu vas chanter ça, parce que c'est pour ta voix. Ensuite, on va passer à ça et ça comme rôle, parce que je sais que ça sera joué. Hop, et après, tu termineras par ça, et tu seras pépère toute ta vie. C'est ça, un vrai agent. Mais il n'y en a plus des comme ça. C'est Kevin Costner de l'opéra. Il murmure à l'oreille des directeurs.
Ah oui, d'accord.
Et tu vas prendre Benjamin Bernheim, mais j'ai aussi une soprano qui vient de rentrer, donc tu vas la prendre dans la même production. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Et toi, t'es là. Et moi
Les agents, ça fait beaucoup, du coup, quand même.
Bien sûr. C'est, grosses agences, ça peut faire beaucoup, ça peut te placer. Parce que ce sont des personnes de confiance aux yeux des théâtres.
Oui.
Aussi.
Donc, garantie
aussi,
financière.
C'est une garantie,
derrière,
ce qui n'est pas très juste, parce qu'il y a des petites agences où il y a des chanteurs extraordinaires et ne peuvent pas passer parce qu'il y a des grosses agences.
Puis peut-être on vous retrouvera un jour dans une même...
Eh ben on verra.
Bon bah écoutez, je vous remercie Kevin Amiel d'avoir répondu à mes questions et d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Passaggio.